Bonjour Père et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Voilà Père, je vais peut-être pour commencer vous laisser vous présenter en quelques mots justement à nos auditeurs.
Alors, donc, je suis Marseillais. Je suis prêtre depuis le 4 juillet 1993. J'étais ordonné prêtre par le cardinal Coffi à l'époque. Je suis très heureux d'être prêtre, de servir le Seigneur et de servir du coup mes frères chrétiens, mes frères en humanité aussi, pour leur annoncer Jésus. Et que dire que du coup, je suis bien enraciné et à la fois dans ma ville de Marseille et dans mon diocèse de Marseille. Et que actuellement, je suis curé de trois villages, gros villages, qui sont donc en Provence, Cassis et Roquefort-la-Bédoule.
Voilà, Père. Alors justement, merci pour cette présentation, Père. Si on revient justement en arrière dans votre histoire de vie, comment tout a commencé? Comment petit à petit est venue cette vocation qu'est la vôtre aujourd'hui?
Ah, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent et que j'ai toujours plaisir, du coup, non pas à raconter, mais à synthétiser, parce que vous imaginez bien que, vous savez, on a lu il n'y a pas longtemps, c'était, je crois, dimanche dernier, vous savez, la graine qui est plantée par le semeur, et le Seigneur dit, on ne sait comment, le semeur ne sait comment elle pousse, voilà. Et donc, il y a plein d'éléments qui ne m'appartiennent pas. Mais ce que je peux discerner, moi, c'est, si vous voulez, le point de cristallisation. Et après, on peut regarder en amont et en aval. La cristallisation, je me rappelle très, très, très bien. J'avais 16 ans. Donc, j'étais en seconde. Je rentrais au lycée chez des frères Marie, à Marseille, à Castellane. Et du coup, j'avais demandé, au début de l'année... suite à un montage audiovisuel que l'un des frères religieux nous avait passé sur la vie monastique, j'avais senti quelque chose, j'avais dit au frère, j'aimerais bien qu'on aille dans un monastère. Je n'avais jamais mis les pieds dans un monastère. Et du coup, il m'a dit, pour le long week-end de l'Ascension, entre le jeudi d'Ascension et le dimanche, on faisait le pont. Il me dit, on peut partir 3 jours. Allez, on était 3 camarades à partir avec lui dans sa voiture. Et on est allé du coup à la ville d'Aiguebelle, dans la Drôme, près de Montélimar. Et là, du coup, je vous promets, je n'avais jamais mis les pieds dans un monastère. J'étais subjugué en arrivant par cette ambiance-là. Et entre 3 garçons, hein, puisque à l'époque, c'était devenu mixte à l'époque. Voilà, mais on n'était que 3 garçons et aucune fille qui était venue avec nous. Et on avait eu des discussions avant le premier office du soir. On avait eu des discussions un peu sérieuses. On avait dit, il ne faut pas qu'on en parle aux frères maristes. Des discussions, du coup, sur la vie intime, la vie amoureuse, la vie relationnelle. Et donc, arrive le repas dans cette abbaye, tout se passe bien, mais il y avait l'aspect un peu nouveau et porteur de la grâce du lieu. Et on est arrivé après les vêpres, on n'avait pas assisté aux vêpres. En fait, on est arrivé au moment des vêpres, donc c'est vrai qu'on est allé se promener. Le frère, lui, devait voir les religieux après vêpres, donc on a eu le repas. Et on a eu, du coup, l'office de compli. Donc, je me rappelle très, très bien, c'était le vendredi, le lendemain de l'Ascension. Et je n'avais jamais assisté à un office de compli. Je ne sais pas si les auditeurs sont allés dans une abbaye. Ils savent que, du coup, l'office de compli est très beau et sobre dans la lumière. Et du coup, c'est mon premier contact monastique, l'office de compli. Et à la fin de l'office de compli, à Aiguebelle, ailleurs, j'étais à Ganagobie, ailleurs, ils le font aussi, d'un coup, à la fin, tout s'éteint. On se retrouve dans un quart de seconde, dans la nuit, et là, tac, uniquement la lumière de la Vierge Marie s'illumine. Et là, il lance le grand Salve Regina de la trappe. Voilà. Et du coup, je sens en moi, oui, j'en ai encore le frisson, vous le racontant. J'avais le frisson, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je connaissais pas le latin, non, je comprenais pas, je savais pas. Alors, je sentais que c'était une prière à la Vierge Marie, mais je la connaissais pas. Et en plus, je savais pas que c'était mon saint patron, Saint Bernard, qui l'avait écrite, en plus. Et donc là, j'étais complètement saisi à ce moment précis. mais vous allez voir, c'est pas terminé. Et à la fin, du coup, de Salve Regina, qui prend l'équipe, le cœur, l'âme, la lumière de la Vierge Marie s'éteint, et à nouveau, on reste un très petit moment, mais qui paraît énorme, hein, dans l'obscurité totale. Et là, de mes yeux, je ne voyais plus qu'une seule chose, c'était la lumière du sanctuaire, c'est-à-dire du tabernacle. La lumière rouge, vous savez, mais on ne voyait pas le tabernacle, on ne voyait plus rien. Et il y avait juste la pancarte issue de secours qui restait allumée, mais qui n'éclairait pas du tout la grande nef de l'église abbatiale. Et là, à ce moment précis, ne fixant plus que la lumière rouge du tabernacle, là, clairement, le Seigneur m'a appelé dans mon cœur. Il m'a dit, Seigneur Bernard, je te veux. Je te veux pour moi. Suis-moi comme prêtre. Et de suite, j'ai dit oui.
Amen. Oui, c'est un beau. Donc c'est le moment fort. Hein. Voilà. Il y a un avant, un après.
Où tout s'est cristallisé.
Oui.
Alors après, vous voulez que je développe du coup en amont ce qui a permis cela?
Oui, peut-être. Oui, remonter un petit peu en amont, Père. Oui.
Voilà, c'est ça. Alors du coup, je suis d'une famille catholique pratiquante, de 4 enfants, je suis le 3e, et notre mère a toujours été meurtrie, elle n'en parlait pas, ou que par bribes, par le fait qu'elle avait commencé la série de ses 4 enfants par une fausse couche, qui l'avait beaucoup blessée, meurtrie, et elle aurait voulu beaucoup plus d'enfants, mais pour les problèmes de santé, elle avait des varices et à l'époque, on ne soignait pas comme aujourd'hui. Le médecin lui avait interdit au bout de 4 enfants d'en avoir d'autres. Hein. Parce qu'elle aurait pu déjà la 4e grossesse, c'est-à-dire celle de ma sœur cadette. Du coup, elle était difficile pour ma mère, elle a dû rester couchée. Quoi. Ça a été dur pour elle et pour nous, du coup, parce qu'on est tous rapprochés. Ma sœur aînée est née en 61, moi en 63, moi en 65 et ma sœur en 66. Donc on est tous très rapprochés. Et du coup, mais en même temps, les difficultés dans la foi créent une ambiance et des liens très forts à Dieu. Ajoutez à cela que ma mère a dit la grossesse difficile de ma sœur cadette, c'est ma grand-mère maternelle qui s'est plutôt occupée de moi, alors que mon frère aîné et ma sœur aînée, c'est mon autre grand-mère, et ma grand-mère maternelle, du coup, elle est très, très, très liée à Notre-Dame de Lourdes, à Saint-Michel-Archange, à Sainte-Jeanne d'Arc, à Saint-Louis, et du coup, elle faisait partie d'un groupe de prières autour de ces grands saints, et elle disait le rosaire en entier, ma mère disait le rosaire en entier aussi. Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et je me rappelle, c'est ma grand-mère maternelle qui, alors que j'avais 7 ans, m'a menée à Lourdes. Et je me rappelle très 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 bien parce que je ne voulais pas y aller. Parce que c'est la première fois qu'on m'a arraché de mes parents. Et du coup, je pleurais, je ne voulais pas y aller. Mais après, à Lourdes, j'ai senti une libération et j'ai vécu une grâce inouïe. J'avais 7 ans. Hein. Donc ça, c'est ce sont deux paramètres importants. Le troisième paramètre, c'est que mon père était boucher-charcutier, ma maman s'occupait de la famille, et mon père travaillait avec lui-même son père, donc de mon papa, on est originaire d'Italie. Et c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé d'Italie. Hein. Et mon grand-père était né en Italie. Il est arrivé du coup bébé, mon grand-père, en Italie. Et il était boucher-charcutier. Et mon père, du coup, a travaillé avec son père. Et tant qu'on était, et ça aussi c'est inouï, ça m'a beaucoup marqué, mon grand-père, le dimanche, alors que la boucherie était ouverte, au moment de la messe, mon grand-père disait à mon père, lève ton tablier, descends à la maison, parce qu'on n'habitait pas loin de la boucherie, descends à la maison pour aller à la messe avec ta femme et tes enfants. Et tous les dimanches, on était en famille à la messe. Hein. Et de voir son père arrêter le travail pour venir à la messe, eh bien, ça marque énormément.
Ah oui.
Donc ça, c'est un autre point important. Pour vous dire, quand du coup mon grand-père est décédé, mon père a dû reprendre la boucherie, et là, du coup, du jour au lendemain, papa n'est plus venu avec nous à la messe. Et bien, ça a marqué aussi en négatif, vous voyez. Ben, en plus de négatif, pareil, je veux dire, le positif était bien ancré, hein, mais pour vous dire que c'était inouï de la part de mon grand-père de dire à son fils, alors qu'il y avait du travail le dimanche matin, de s'arrêter de travailler pour honorer la messe dominicale. Vous voyez, donc, ce sont tous ces éléments, et enfin, donc, il y a l'éducation aussi scolaire, puisque le début de l'école, je l'ai fait chez des sœurs italiennes qui sont à Marseille, et ensuite à la fin de l'école et le collège et le lycée, je l'ai fait chez des frères maristes, donc où il y avait encore des religieuses et des religieux dans les écoles. C'était plus rare maintenant. Voilà un peu en bref, hein, mais si vous avez des questions, je peux répondre.
Oui, Père, je voulais savoir, après ce moment très très fort que vous avez évoqué au tout début, hein, à l'âge de 16 ans, combien de temps s'est-il passé après pour que vous puissiez justement réaliser votre vocation, entrer au séminaire? Il y a eu, j'imagine, voilà, des temps aussi d'attente, peut-être?
Alors, c'est tout à fait... Vous savez, c'est là que vraiment, c'est le bon Dieu qui tient nos vies, hein, vous savez, ce que vous allez voir. Mais avec le à ce moment-là, je n'avais pas fait d'études de théologie, donc je ne réalisais pas. Mais quand je prends du recul, c'est inouï. Pourquoi? Parce que j'étais chez les frères maristes. J'allais tous les dimanches à la messe, mais mon vis-à-vis ecclésial, mon vis-à-vis institutionnel ecclésial, ce n'était pas le prêtre de la paroisse. Il ne me connaissait que le dimanche, le prêtre de la paroisse. J'ai fait toute ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, mon catéchisme en institution chrétienne, catholique. Et donc du coup, mon repère ecclésial, ce n'était pas le curé, c'était le religieux, c'est le frère. Et donc le premier à qui j'ai confié ma vocation, c'est à ce fameux frère mariste, qui nous avait amenés dans cette abbaye d'Aiguebelle, dans la Drôme. Et lui, je m'en rappellerai toujours, et ça m'avait refroidi, et ça m'avait, comme un coup de couteau, comme s'il m'abandonnait. Il m'avait dit: Bernard, tu sais, moi je suis que religieux. Or, c'est le Seigneur t'appelle à devenir prêtre, donc c'est pas à moi qu'il faut t'adresser, il faut que tu t'adresses à un prêtre. Et je m'en rappellerai toujours parce que je lui ai dit: mais frère, mais je connais que vous. Je ne connais pas de prêtre. Et là, la première épreuve, c'est qu'il m'a envoyé au prêtre responsable des vocations de Marseille. Et très gentil, hein, très gentil. Mais de mon point de vue à moi, ça s'est très mal passé. Parce que moi, je pensais qu'on allait parler de Jésus, de donner sa vie à Dieu. Vous voyez, à 16 ans, ce qu'on peut être, ce qu'on veut porter. Et lui, c'était plutôt administratif. Oui, bon, alors, les réunions, les rencontres, comment tu pourras être disponible, comment venir? Mais moi, je me suis dit, moi, c'est pas pour ça que je suis venu le voir. C'est pour devenir prêtre, quoi, pour donner sa vie à Jésus. Vous savez, avec tout l'enthousiasme d'un adolescent. Et donc, j'ai commencé, puisque c'était au mois, l'ascension, c'est le mois de mai, hein. Donc, j'ai commencé les réunions en juin, il y en avait une ou deux pendant l'été, mais c'était pas ça. Et donc, du coup, au bout de 3-4 réunions, en plus, j'étais le seul, on était une dizaine de personnes, garçons et filles, mais tous, ils avaient autour de 20 ans. J'étais le seul à avoir 16 ans. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ces vieux? Mais quand je disais qu'à 20 ans, qu'on était vieux, donc à mon âge, 56 ans, qu'est-ce qu'on dirait? Et du coup, j'ai écrit une lettre en disant que moi, et en plus, on parlait beaucoup de social, d'engagement, d'humanitaire, alors que moi, c'est pas de ça, donc je voulais pas qu'on parle, quoi. C'est de parler de Dieu, de Jésus, donner sa vie, de la Vierge Marie, quoi, que les choses, quoi, que je pensais que c'est là dont il fallait se parler. Et donc, du coup, j'ai écrit une lettre en disant que j'arrêtais. Hein. Mais du coup, en écrivant cela, je ne réalisais pas que je me retrouvais tout seul. Mais le bon Dieu, quand il vous tient par la peau du cou et il ne vous lâche pas. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le frère religieux, qui était mon repère à moi, mon repère ecclésial, me dit qu'il était nommé à Saint-Étienne et qu'il partait. Donc, deuxième coup de couteau dans le cœur. Premier, quand il me dit, mais moi, je ne suis pas prêtre, c'est pas à moi qu'il faut se confier. Et le deuxième coup, quand il me dit, mais Bernard, je m'en vais, je prie bien pour toi, mais ciao. Il y a le troisième coup, c'est cette fameux groupe d'évocation de Marseille. Et là, mais le bon Dieu ne vous lâche pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis, l'évêque change un prêtre de ma paroisse, un nouveau vicaire que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui depuis l'âge de 16 ans est encore aujourd'hui mon père spirituel. Et c'est à lui que je dois, donc il y a eu à 16 ans, la cristallisation, je vous ai dit en amont, la famille, l'éducation, maintenant en aval, c'est à lui que je dois mes premières confessions profondes, mes premières lectures spirituelles. Il m'a fait commencer à lire, par exemple, La nuit obscure de Saint Jean de la Croix, sur la purification des sens, la purification de l'esprit, la purification passive, la purification active. Tout ça, je ne connaissais pas. Après, il m'a fait lire Les trois âges de la vie intérieure, du Père Garrigou Lagrange, ce sont des livres de référence inouïs. Inouï. Et à 16 ans, vous rendez compte, 16 ans, 17 ans, est vraiment fantastique. Et il m'a commencé à m'engager aussi à la paroisse, avec d'autres jeunes à la paroisse de mon âge. On était catéchistes, on s'occupait du groupe de la première communion. Après, il m'a demandé de rentrer avec l'accord du curé dans le conseil pastoral. Donc, je fais partie du conseil pastoral. Et puis arrive le bac. Moi, j'étais convaincu qu'avec le bac, je rentrerais au séminaire. Pas du tout, et c'est là qu'il me dit quelque chose de très important que nos auditeurs doivent entendre. Il me dit, Bernard, tu vas être un bon prêtre ou un mauvais prêtre ? Et je dis, mon père, je vais être un bon prêtre. Il me dit, c'est quoi un bon prêtre ? Et je dis, un bon prêtre, c'est un prêtre qui s'occupe, qui fait comme toi, les baptêmes, les mariages, enterrements, les confessions. Il me dit, non, c'est pas ça un bon prêtre. Je dis, ah bon, c'est quoi un bon prêtre ? Un bon prêtre, c'est un prêtre qui s'occupe de tout le monde. Aussi bien de l'éboueur, du cantonnier, que du ministre, du président de la République, du préfet, du député, du médecin, de l'ingénieur. C'est ça le bon. Et moi, je fais, oui, mais c'est ça. Et il me fait, tu crois qu'avec ton baccalauréat, tu peux t'occuper de tout le monde ? Ah, je fais, non. Il me fait, c'est pour ça que tu feras des études universitaires. Et il m'a envoyé faire, du coup, une licence en philosophie à Aix-en-Provence, où là, j'étais pour la première fois confronté, d'abord la chute du mur de Berlin, hein, donc j'étais confronté à l'idéologie marxiste et communiste inouïe, mais qui m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis frotté à la vie hors chrétienne, non chrétienne et hors communauté chrétienne, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est à l'issue de la licence que je suis rentré au séminaire de Marseille en 1996.
Et alors, Père Bernard, vous aviez finalement quel âge quand vous avez été ordonné prêtre ?
J'avais 28 ans.
28 ans. Écoutez, Père, en tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, le temps file, on arrive déjà au terme de l'entretien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre très très beau témoignage, Père. Et on aura peut-être l'occasion de vous réentendre sur l'antenne de Radio Maria France.
Mais si Dieu le veut, si vous le voulez, avec plaisir.
Merci infiniment, Père Bernard.
Allez, et que Dieu bénisse tous vos auditeurs et vous-même. Hein.
Merci, Père.
Au revoir.
Au revoir.